Europe 1, 10h, 11h.
Médiapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, bonjour Catherine.
Bonjour Olivier, bonjour Pascal, bonjour tout le monde.
Pascal, c'est Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po, qui publie Le Grand Écart aux éditions Plomb. Nous sommes samedi, c'est Médiapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politiques, réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Capucine Patouillet. Et comme d'habitude, nous commençons avec l'ami Cantelou.
Allez, on est à J-3 avant la grève de jeudi, le 5 décembre. Édouard Philippe est en première ligne. Il était en réunion avec tous ses ministres hier soir, dimanche. Ça a commencé à 16h30 et ça a duré longtemps. Hein,
oui, c'était un vrai bonheur.
Bonjour Édouard Philippe.
Bonjour. Alors,
quand on parle de vous, on fait en permanence référence aux grèves de 95. Alain Juppé, votre père spirituel, était alors premier ministre. Et vous la voyez comment, vous, cette grève, cette fois-ci?
Comment? Écoutez, si l'expression « tel père, tel fils » se vérifie, eh bien ça va être un beau bordel à partir du jeudi 5. Enfin, un bordel statique, vu que tout sera bloqué. Mais un bordel quand même. Mais ça dit, je dois vous dire que j'ai confiance.
Confiance pour trouver un terrain d'entente avec les syndicats?
Non, pour faire aussi bien niveau bordel qu'Alain Juppé. Ça fait combien de temps que la concertation sur les retraites est lancée, même Julie? Rappelez-moi le chiffre.
J'ai lu 18 mois.
Voilà, 18 mois. Ouais. Donc vous pensez qu'on va trouver dans les 3 jours ce qu'on n'a pas trouvé en 18 mois? elle est mignonne, celle-ci. Non, pour tout vous dire, quel est mon état d'esprit, je pense que c'est moutu.
C'est
moutu. C'est une contraction de c'est mort et c'est foutu. C'est que là, c'est complètement moutu.
Ah bon, écoutez, bon courage, voilà. Alors.
Ce sera dans le dico l'an prochain.
Bon courage.
Non, bon courage à vous surtout, parce que moi, vous savez, j'ai un chauffeur.
C'était Édouard Philippe, c'est-à-dire Cantelou, ce lundi sur Europe 1. Alors, Pascal Perrineau, c'est moutu?
Non, ça n'est pas moutu dans la mesure où le mouvement social est certes important, mais je dirais il y a plusieurs éléments qu'il faut faire intervenir dans le paysage. D'abord, un élément en termes d'opinion. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion, 3/4 des Français disent qu'ils sont en faveur d'un système de retraite ne garderait pas le système actuel des 42 régimes spéciaux. Donc il y a sur le principe de la réforme un soutien des Français. Simplement, en même temps, ils considèrent que ça n'est pas le pouvoir actuel qui est le plus à même de porter cette réforme. Deuxième remarque, le front syndical n'est pas un front syndical uni. La CFDT a un pied dedans et un pied en dehors. Et enfin, troisième remarque, oui, la mobilisation est forte, 850 000, c'est beaucoup. Mais par exemple, et j'en parle dans mon livre, j'ai repris un peu les différents chiffres de manifestation des 20 dernières années. Par exemple, le 12 décembre, la manifestation 95, la manifestation contre le plan Juppé, c'était 1 million. Contre le plan Raffarin en 2003...
Sympathique pour le mouvement, votre comparaison, parce que vous ne prenez pas la première manifestation. En novembre-décembre, il y a eu une montée en puissance.
Oui, c'est vrai.
Je ne suis pas membre de la CGT, mais pour l'exactitude...
Ça avait commencé en effet plus bas, mais en revanche, en 2003, la manifestation contre le plan Raffarin de réforme des retraites rassemblait 1 130 000. Le 19 octobre 2010, toujours contre la réforme des retraites, il y avait 1 230 000. Alors j'ai dit ça simplement pour, non pas relativiser, mais comparer. Alors comparaison n'est pas raison, la mobilisation est importante, je l'ai dit, mais ce n'est pas une mobilisation record, contrairement à ce que l'on peut lire ici et là.
Catherine Ney.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les Français sont pour la réforme, mais ils ne voudraient pas que ce soit... avec Emmanuel Macron, sauf qu'aucun politique avant Emmanuel Macron a osé se lancer dans un choix aussi intensément politique, téméraire, révolutionnaire, que de lancer une réforme qui va transformer 42 régimes en un seul. Et d'ailleurs, on voit déjà qu'il y a déjà des exemptions. Donc, bon. Mais ce que je trouve intéressant dans ces manifs, qui, comme vous le dites, Pascal, ne sont absolument pas plutôt moins importantes que d'autres, c'est la mobilisation dans les villes de province petites et moyennes. Et ça, on s'aperçoit que ce sont des gens... Vous voyez, en 2010, il y avait une colère, parce que les gens savaient à quoi s'attendre. On changeait, on passait de 60 à 62 ans l'âge pour passer à la retraite. Donc, c'était des gens qui ne voulaient pas passait à 62 ans. Ils savaient. Mais le corollaire, c'est qu'il n'y avait pas eu de grève, de train, de, voilà, les enseignants, ils n'avaient pas bougé. Il y avait des manifs de la CGT qui ne voulaient pas. Tandis que là, ce sont des gens qui ont peur. Parce que dans le fond, on leur dit c'est le grand régime de la justice sociale et ils ne savent pas, ils ont peur d'être impactés, que ça soit moins bien pour eux avant qu'après. Donc, ça a été plutôt mal expliqué. Jean-Paul Delevoye a pourtant fait des réunions, mais enfin, il est toujours sur un ton philosophique, quelquefois un peu abscon. Et puis, les ministres ont un peu dit des choses un peu contraires. Donc, ça a un peu embrouillé les esprits.
Oui,
mais je crois que ce qui est intéressant, ces manifestations en province, ça marque qu'il y a un gilet jaunisme de l'opinion. C'est-à-dire qu'on est prêt à râler, à avoir peur, parce que c'est la peur qui dicte leur réaction.
Tout à fait. Et ce succès dans les villes moyennes, par exemple, je regardais à Auxerre, qui est une ville, certes, le chef-lieu de Lyon, mais qui n'est pas une ville extrêmement importante. La mobilisation a été une mobilisation forte, tout comme, d'ailleurs, il y a un an, la mobilisation des Gilets jaunes était forte dans ce chef-lieu de Lyon. Donc là, il y a un symptôme de quoi ? De ce que nous appelons depuis de nombreuses années la fracture territoriale, un malaise de cette France des périphéries, pour parler vite, dans lequel certes on proteste contre le type de réforme qui est proposé, mais cela va bien au-delà. Le nombre de manifestants est un symptôme d'un malaise beaucoup plus important, l'impression d'être laissé sur le bord du chemin.
Si je puis me permettre, ce qui me frappe à vous entendre, si je compare avec 1995, c'est le jaunissement des commentaires. C'est-à-dire qu'en 1995, tout le monde, tous les médias, les commentateurs, etc., encensaient le plan Juppé. Et c'était très, 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 très marginal ceux qui le critiquaient et qui ne critiquaient pas le mouvement. Et là, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que on souligne l'incohérence du gouvernement, l'illisibilité de la réforme. Et puis, on ne dit pas de mal, on est très neutre dans la description et factuel dans la description du mouvement. Et pourquoi j'appelle ça le jaunissement ? Parce que je pense que c'est la prise de conscience dans les élites médiatiques de la distance révélée entre le haut et le bas des critiques dont ils étaient l'objet et que du coup, Catherine Ney sursaute.
Non, moi je ne suis pas d'accord avec vous.
Ouais, si, très bien, allez-y.
Si on dit que cette réforme, qui est sûrement dans sa pureté de cristal quelque chose de formidable, le handicap, c'est que personne ne sait à quelle sauce il va être mangé.
Vous n'êtes pas d'accord avec moi en disant ça ? Donc, on critique le gouvernement.
Tandis que
qu'on ne critiquait pas Juppé.
Eh bien, parce qu'en 95.
Vous voulez tellement pas être d'accord avec moi, même quand vous êtes d'accord, vous dites
que
vous n'êtes pas d'accord.
Non, mais en 95, il y avait la réforme de l'assurance maladie, je me souviens, je crois que l'Assemblée s'était élevée comme un seul homme pour un bon.
Absolument.
Il y avait ajouté, contre l'avis de Mme Notat.
Oui.
Contre l'avis de Jacques Chirac,
oui.
La réforme des régimes spéciaux comme ça, et il avait eu ses grèves pour ça. C'était pas sa réforme de l'assurance maladie.
Allez.
Donc voilà. Non, voilà. c'était pas du tout la même chose. Je suis pas d'accord avec vous.
Mais si vous êtes d'accord. Bon, allez, on va s'expliquer pendant une petite pause parce que moi, quand je pense que je suis d'accord avec vous, je voudrais au moins vous en convaincre. Allez.
Europe 1.
Mediapolis.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel et Catherine Ney. Ce samedi, ils sont accompagnés par Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po, qui vient de sortir aux éditions Plomb Le Grand Écart.
Et alors, sur le développement du mouvement, je crois qu'on peut être d'accord pour considérer qu'il y a deux éléments fondamentaux à prendre en compte. Du côté des critiques et des personnes mobilisées, c'est à la fois le nombre des grévistes et le nombre des manifestants. Est-ce que à la manifestation de mardi prochain, il y aura plus de monde qu'il n'y en a eu ce jeudi ou est-ce qu'il y en aura moins ? C'est un élément très important. Le nombre des grévistes, est-ce que ça reprend, puisque ça s'est arrêté là, est-ce que ça reprend dans l'éducation nationale ou pas, etc. Et le deuxième élément, c'est l'opinion. Et sur l'opinion, il y a quand même des éléments assez durs pour le pouvoir en place. La force grandissante du soutien au mouvement jusqu'à présent. Et d'autre part, et c'est Jérôme Jaffré qui soulignait ça hier à LCI, je crois, parce qu'il a vraiment raison. Il a comparé des sondages de Ipsos pour France Télévisions sur est-ce que les gens pensaient qu'ils allaient perdre ou gagner à la réforme. Et le nombre de ceux qui pensent être perdants est passé en une dizaine de jours de 36% à 47%. Ça, c'est absolument indispensable pour les clarifications qui doivent être apportées par Delevoye, puis par Édouard Philippe, de faire baisser, d'arrêter en tout cas la croissance de ce chiffre. Parce que si tout le monde pense, enfin si une grande majorité des gens pensent être perdants, ça ne le fera plus du tout. Enfin, je note assez différemment de ce qui s'est passé dans des mouvements précédents, la mansuétude des gouvernants à l'égard de la manifestation et de la grève de jeudi. Par exemple, Sinbad Diaye a déclaré en sortant du Conseil des ministres « Nous respectons la mobilisation des Français ». Sinbad Diaye, vous l'avez entendu, ça
Oui, qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise d'autre hein ? Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a. Elle ne peut pas dire qu'elle est contre, voilà. Non, mais j'ai vu, oui.
Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a.
Non, mais je veux dire, un porte-parole du gouvernement peut dire, ben voilà, elle a une manifestation, ils peuvent l'enterrer.
Qu'est-ce que vous en pensez, quoi, vous, de Sinbad Diaye ? Il y a un sous-entendu, oui.
Mais je l'ai vu sur le plateau de jeudi soir. Oui. Elle était avec... Moi, je trouve que c'est une femme intelligente qui connaît ses dossiers, mais elle se nuit elle-même en excusez-moi, alors là, vous allez dire que c'est peut-être bon, chacun son mauvais goût, qu'elle s'habille comme si elle travaillait chez Pinder. Et donc, on est absolument fasciné par ce pantalon, ses couleurs vives et tout ça. Voilà, exactement. Allez, et je pense qu'un porte-parole du gouvernement, même si on est jeune, même si on est jeune, c'est qu'il faut... Je trouve que, voilà, je pense qu'elle
quand
aurait... Mais ça, c'est une opinion personnelle.
On aime ce que l'on a, et si Sinbad Diaye commet une erreur,
ben oui.
Elle s'habille comme chez Pinder, c'est du Catherine Ney pur sucre.
Alors, en effet, vous venez d'insister sur un élément important.
Comparaison. Vous parlez de Pinder ?
Non. Mais
vous n'êtes pas en désaccord avec moi, finalement.
La dignité que l'on accorde à partir de signes extérieurs à un porte-parole de gouvernement, je crois que c'est important. Hein, même si ça peut paraître, au premier abord, légèrement déplacé. Souvenons-nous du style extrêmement relâché de Nicolas Sarkozy, qui lui a coûté très cher en termes d'image. Mais si l'on pense...
Avec Perrineau, c'est du sérieux. Alors...
si l'on pense aux points communs et aux points de différence avec le mouvement de 95, qui est là tout de même dans toutes les têtes, il y a un élément constant, c'est la grève par procuration. D'ailleurs, ce thème avait débouché en 1995. C'est vrai que tant que l'opinion soutient massivement un mouvement, c'est très difficile d'envisager pour le gouvernement une sortie par le haut.
Et il y a une différence considérable. Je le répète. Pour les Français, c'était 6 mois après l'élection présidentielle, une trahison de la promesse, alors que là, au moins Macron peut répéter « je mets en œuvre un engagement ».
Tout à fait. Deuxième élément, à mon avis, qui est constant, c'est, comme le disait Alain Touraine, là aussi, en 1995, ce sont des mouvements du grand refus. On voit très bien ce que ces mouvements sociaux refusent, on voit de manière beaucoup plus confuse ce qu'ils proposent comme système alternatif. Et puis, si on en vient aux différences, moi, je suis frappé de voir que ce mouvement est tout de même marqué par ce qui s'est passé au cours des dernières années, et particulièrement, vous parliez de jaunisation tout à l'heure du mouvement. Vous savez, au départ, certes, les syndicats sont là, mais c'est venu de la base syndicale.
Absolument.
Hein, c'est pas venu des appareils syndicaux. Donc, il y a bien une dimension basiste que l'on avait vue dans le mouvement des Gilets jaunes. Deuxième élément, c'est un mouvement qui n'a pas pour l'instant de débouché politique. On voyait beaucoup plus en 1995 le débouché politique venir, et d'ailleurs c'est venu avec un effet retard lors des législatives de 1997.
On va pas refaire l'histoire, mais on voyait pas venir la dissolution, faut pas exagérer quand même.
Ah, mais pas la dissolution, le fait que la gauche l'emporte. Oui. Il y avait une alternative à l'époque politique.
D'accord.
Aujourd'hui, ce mouvement social se déroule dans un paysage politique où il n'y a pas d'alternatives politiques pour l'instant crédibles, sauf peut-être...
J'ai Marine Le Pen qui nous appelle là et qui nous dit pourquoi il dit ça, Pascal Perrineau.
Sauf, en effet, une alternative qui serait une alternative, comme le dit Jérôme Sainte-Marie, d'un bloc populiste qui se mettrait en place. Et je dirais que les éléments de langage, comme on dit maintenant, envoyés par le patron de la France Insoumise lors de la manifestation de Marseille le 5 décembre... sont des propos tout à fait intéressants, parce qu'il a salué Marine Le Pen qui s'était ralliée à la grève, il a salué Marine Le Pen qui évoluait, disait-il, je reprends ses termes, vers l'humanisme, et il a dit que les adhérents du Rassemblement National étaient bienvenus dans le mouvement.
Vous savez que tout ça a déclenché une polémique assez forte sur les réseaux sociaux cette semaine, donc vous avez raison de le souligner. D'aucuns défendent Mélenchon en disant que c'était ironique, d'autres pas du tout. Il faut savoir, pour ceux de nos auditeurs qui l'auraient oublié, que un des premiers apports, parmi beaucoup d'autres, de Pascal Perrineau dans l'analyse politique et électorale, c'est qu'il avait mis en valeur ce qu'on appelle le gaucho-lepénisme, c'est-à-dire comment une partie de l'électorat populaire était passée d'un vote communiste ou socialiste à un vote Front National.
Oui. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce numéro de Vase communicant, c'est qu'il y a quelques mois, c'était Marine Le Pen qui disait aux électeurs de la France insoumise, qu'ils étaient le bienvenu chez elle. Et bien maintenant, c'est bienvenu chez moi, dit Mélenchon, qui essayait de...
Voilà, oui, cela dit, contrairement à ce que vous laissez entendre, si je ne me trompe pas, je ne pense pas que les conditions soient réunies pour une jonction entre le populisme...
Mais je ne dis pas ça non plus.
Je dis
ce qu'ils disent, l'un et l'autre.
Et moi, je me permets de dire, si vous me le permettez, Catherine, je me permets de dire que pour ceux qui croiraient... Dit comme ça, ça vous va ?
Ça vous va.
À la jonction entre populistes d'extrême gauche, entre la France insoumise et le Rassemblement national, pour parler clair, personnellement, comme ça s'est produit à un moment en Italie, tout à côté de chez nous,
mais entre la Ligue et 5 étoiles. Il y avait un sondage où des électeurs de France insoumise étaient prêts à voter pour Marine Le Pen.
Pendant ce temps-là, Perrineau fait des grands gestes, et bien il va devoir attendre pour nous révéler à quel point il n'est pas d'accord avec moi. Mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir trouver comme argument dans quelques minutes ?
Europe 1. Mediapolis.
Ce matin dans Mediapolis, Olivier Duhamel et Catherine Ney reçoivent Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po et auteur du livre Le Grand Écart aux éditions Plomb.
Et alors Pascal Perrineau, c'est des grands gestes, il disait qu'il n'était pas d'accord. Et comme moi aussi je voulais un peu le suspense, je ne vais pas demander pendant la petite pause et il va nous dire pas d'accord, pourquoi ?
Alors, Olivier me connaît, c'est plutôt une nuance que j'introduirais.
Ça, c'est votre côté, René Raymond.
Voilà. À force, et c'est un honneur pour moi. Mais à force de se souhaiter la bienvenue, je crois que France Insoumise et le Rassemblement National peuvent, à terme, trouver une forme de maison commune. Hein, première remarque. Deuxième remarque,
maison
les
commune,
électeurs. Une maison commune, c'est-à-dire une forme d'accord qui pourrait, à terme, bousculer beaucoup le paysage politique.
Oui, mais attendez, je pose une question. S'il y a une maison commune, ça veut dire que, vous voyez, il y a Marine Le Pen. Bon, mais là, c'est comme la baignoire Sabot et vous. Il y a l'un ou l'autre. Il y a deux chefs, il n'y en aura qu'un ou quoi ?
Oui, mais regardez, ce qui s'est passé dans les urnes depuis maintenant un certain temps. Lors des référendums, à chaque fois qu'il y a la question européenne, le référendum sur Maastricht, le référendum sur 2005, qu'est-ce qui fait la courte victoire du oui et l'ample victoire du non en 2005 ? C'est la coalescence dans les urnes, la coalition dans les urnes des électeurs du Front National à l'époque et de la gauche de la gauche.
C'est très différent de se retrouver une journée dans les urnes juste pour dire non que de gouverner ensemble.
Alors je vais poursuivre parce que on prend des habitudes et moi ce qui me frappe c'est dans toutes les enquêtes depuis 2005 comment le clivage de 2005 sur bien d'autres questions se retrouve, il est opérant pour comprendre les clivages, les oppositions. Il est opérant.
Vous voulez dire entre ouvert et fermé ?
Oui, entre ouvert et fermé, etc. C'est très très fort.
Politique, comme on dit.
Recentrage sur la nation, demande d'un protectionnisme fort au plan politique, au plan économique, au plan culturel, et au contraire des gens qui font confiance pour aller vite à l'ouverture. Et puis, en effet, Catherine Ney vient de le mentionner, il y a eu un sondage d'intention de vote pour la prochaine présidentielle. Certes, on est loin, mais ça donne simplement une idée des équilibres. Dans un second tour, Marine Le Pen ferait 45% d'intention de vote. C'est un sondage IFOP. Comment est-elle passée ? C'est un chiffre considérable. Comment est-elle passée de 33, son score du second tour en 2017, à 45 ? Eh bien, vous vous apercevez, et là c'est tout à fait intéressant, il faut aller voir les données, que les électeurs maintenant de Mélenchon, les électeurs qui se disent proches de la France insoumise, iraient voter massivement pour Marine Le Pen dans un second tour. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on disait on vote Macron par anti-lepénisme. Mais il y aura peut-être un jour où on votera Marine Le Pen par anti-macronisme.
On vote Macron.
Et est-ce que l'inverse est vrai ?
Catherine, je répète parce que c'est assez
c'est
important
très fort,
et fort.
Oui.
En fait, en 2017, on a notamment pas mal voté Macron par anti-lepénisme, en 2022, on pourrait voter Le Pen par anti-macronisme. C'est pour ça, j'ajoute donc, que quand on a un sondage en 2019 qui la met à 45%, ça veut dire qu'en 2022, elle peut être élue.
Voilà, c'est un... l'accident électoral, la volatilité électorale, la perte des repères est telle que de plus en plus s'impose non pas un vote pour, mais un vote contre. Alors c'est vrai que voilà, la gauche, la droite, Emmanuel Macron, beaucoup bénéficié d'agiter l'épouvantail. Jacques Chirac, en 2002, l'épouvantail du Front National. Mais est-ce qu'au fond, aujourd'hui, il n'y a pas d'autres épouvantails? Et regardez, peut-être que l'ampleur du mouvement social s'explique aujourd'hui aussi par l'épouvantail qui est devenu, malgré lui, ou peut-être parfois à cause de lui, Emmanuel Macron.
Passionnant. D'où la question. Qu'est-ce qu'on fait pour corriger ça? Pour arrêter cette espèce de vague qui semble grossir et grossir? Réponse dans quelques instants.
Europe 1. Mediapolis.
Mediapolis continue jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, et vous, Catherine Ney, mais avec également votre invité, Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po, qui vient de publier Le Grand Écart aux éditions Plomb.
Et qui va, dans un instant, répondre à Catherine Ney.
Oui, moi, ce que je voulais savoir, selon vous, si Emmanuel Macron, en proposant une réforme, cette réforme des retraites, des 42 régimes, que personne, aucun président avant lui n'avait osé proposer, parce qu'il savait que c'était un tapis de bombe. Donc, lui, est-ce que ce courage, cette témérité, cette révolution qu'il avait annoncée peut être mise à son crédit juste avant l'issue de son quinquennat et ça soit un peu comme le prélèvement à la source, hein, tout le monde était contre au départ et maintenant tout le monde est pour, ou au contraire, est-ce qu'il a signé en la proposant son arrêt de mort?
Alors, en effet, le courage du président est réel. La réforme est une réforme extrêmement ambitieuse sur le principe de laquelle... les Français sont d'accord. Mais ça ne suffit pas, le courage et l'ambition. Il faut... tout est dans la manière de. Hein. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que nombre de ministres n'ont pas facilité la mise en musique de cette réforme qui, sur le papier, restait une réforme populaire.
Oui, nuance,
tout est dans l'art de l'exécution.
Moi, je crois qu'il connaissait la musique, mais il n'en connaissait pas les paroles.
C'est ça, voilà. Hein, tout est dans l'art de l'exécution, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les dernières semaines, et même les deux derniers mois, ne sont pas marqués au coin de cet art politique de l'exécution. Mais attention, vous mentionnez l'arrêt de mort, regardons ce qui s'est passé dans des pays voisins, avec la victoire de la coalition 5 étoiles et de la Ligue en Italie, de Bolsonaro que personne n'attendait au Brésil, de Trump et du Brexit. Il y a là toute une série de signes qui montrent que des coalitions de type populiste réunissant des électeurs qui viennent d'horizons extrêmement différents peuvent découvrir une vocation majoritaire jusqu'au cœur de nos démocraties parlementaires ou présidentielles. Cependant, une fois qu'on a dit cela, donc on voit bien que la thèse du plafond de verre, comme on dit toujours, est une hypothèse. Non. Le plafond de verre est fragilisé. Cependant, il faut compter toujours sur soi. Le Rassemblement national reste très souvent, on le voit en termes d'image, son meilleur ennemi. Hein, il n'a toujours pas l'image d'un parti de gouvernement. Il n'a toujours pas réussi à donner l'impression qu'il était autre chose qu'une force solitaire.
Est-ce qu'on peut, Pascal Perrineau, ce que vous dites est tout à fait passionnant, mais est-ce qu'on peut en revenir à la question de Catherine Ney qui portait sur...
Donc l'arrêt de mort est possible.
Les effets... Bon, il y a plein de choses qui vont déterminer la présidentielle, et c'est trop tôt pour le dire. Mais dans ce qui se passe là, est-ce que, par exemple, on peut dire que s'il réussit à maintenir la réforme, au moins dans son principe, quitte à ce que les applications soient variées et différées, à ce moment-là, il n'y aura pas d'effet négatif de cet épisode pour sa possible réélection. On peut dire ça.
Est-ce qu'on
peut dire aussi que s'il le retirait purement et simplement... Alors, là, ça le plomberait définitivement.
Alors, je ne crois pas au thème du retrait. D'ailleurs, on dit très souvent Juppé a retiré tout, c'est faux.
Juppé n'avait pas conservé les régimes spéciaux.
Voilà,
la fonction publique et il a laissé
l'assurance maladie.
Voilà. Il a laissé la réforme maladie.
Donc, mais enfin, cela dit, voilà. Ils ont perdu le pouvoir perçu, 2 ans après.
Vous avez raison, ça a été perçu comme une défaite en race campagne. Donc un retrait, mais je n'y crois pas. Je ne crois pas aux effets positifs d'un retrait. Hein. Oui. En revanche, rentrer dans l'art de l'exécution d'un compromis digne de ce nom à partir de mesures de réforme un peu plus précises que celles qui ont été présentées aux syndicats et à l'opinion depuis quelques semaines.
Étaler dans le temps.
Voilà, et étaler dans le temps, c'est tout à fait possible.
C'est
d'ailleurs
possible,
en écoutant,
mais c'est pas aussi simple que ça pour une raison, c'est que on a trop tendance à expliquer le mouvement actuel par l'imprécision de la réforme. Il y a un autre élément quand même fondamental, et tout votre livre en rend compte, excellent livre de Mans, qui est la défiance. C'est-à-dire, si vous devenez explicite, par exemple avec les enseignants, déjà Blanquer l'a fait, si vous dites aux enseignants, en aucun cas votre retraite ne diminuera, nous allons progressivement, jusqu'à l'entrée en vigueur pour vous de la réforme, augmenter les salaires des jeunes qui sont ceux qui auront à, entre guillemets, subir la réforme, de telle manière que non seulement vous n'y perdrez rien en termes de retraite, mais vous allez y gagner en termes de salaire. Alors on pourrait dire, ah, bah là les enseignants se disent, c'est bon, j'arrête. Mais sauf qu'ils ne le croient pas. Et ça, comment est-ce qu'un pouvoir politique, chez nous comme ailleurs, aussi ailleurs, si je puis me permettre, sans trop bafouiller, comment est-ce que vous arriver à rétablir de la confiance. Question simple, alors, réponse difficile.
Parce qu'on ne rétablit pas la confiance en 2 semaines. Hein. Et quand on regarde tous nos indicateurs, j'ai construit à Sciences Po, il y a 10 ans, ce baromètre de la confiance politique. Mais j'ai honte. Il faudrait que je l'appelle le baromètre de la défiance politique, parce que ça mesure, sauf pour les maires, ça mesure uniquement de la défiance. Hein. La défiance vis-à-vis de tous les corps intermédiaires, toutes tendances confondues, les syndicats aussi.
Et de la gauche et de la droite.
Voilà, la même chose, des baromètres de popularité qu'on pourrait appeler baromètre d'impopularité.
Voilà. Oui. Donc, tout le monde est en dessous de 50% de popularité, même les plus populaires. Donc, on voit bien que, bon, voilà, il y a une défiance. Avant de proposer une réforme, eh bien, voilà, la réforme est déjà considérée comme étant, vous voulant du mal. Hein. Et là, je voudrais revenir à quelque chose que François Dubet, cet étonnant observateur des mouvements sociaux, a bien vu dans son livre sur le temps des passions tristes. Il dit le gros problème, pour mieux comprendre ce mécanisme de défiance, c'est qu'aujourd'hui, le système des inégalités sociales est perçu sur le mode individuel. C'est-à-dire, c'est plus, on n'en veut plus à votre milieu social, on vous en veut à vous-même. À vous-même. C'est-à-dire tout système d'inégalité est perçu comme une vindicte à votre égard. Cela crée ce qu'il appelle, lui, les passions tristes. Cela crée énormément de colère et on est au cœur de ce temps, de ce que Dubet, après bien d'autres philosophes, appelle le temps des passions tristes.
Eh ben, c'est joyeux. Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là, Outre-Manche ? Parce que, attention, hein, le samedi prochain, ils auront voté, oui. Outre-Manche. Qu'est-ce qui se passe ? Réponse dans un instant.
Europe 1. Médiapolis.
Comme chaque samedi jusqu'à 11h, c'est Médiapolis sur Europe 1. Et ce matin, vous recevez Olivier Duhamel et Catherine Ney, Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po et auteur du livre Le Grand Écart aux éditions Plomb.
Et comme chaque samedi avant 11h, je rends compte de ce que Alice Baudry, directrice de la stratégie et du développement, nous a trouvé à l'international, chère Justine. Et là, c'est un article de Politico, magazine Politico de décembre 2019. Will Britain's never-ending civil war be over by Christmas? Don't count on it. Est-ce que la guerre civile sans fin que nous connaissons sera en Grande-Bretagne sera finie à Noël? Ne comptez pas dessus. Et je vous cite l'extrait parce que c'est vraiment un beau papier. Nous sommes en août 1914. La Grande-Bretagne règne sur son empire. Le soleil ne s'y couche jamais. Un quart de la population mondiale reconnaît George V comme son roi et la Grande-Bretagne est la seule véritable superpuissance mondiale. Si vous vous moquiez des Britanniques à l'époque, il fallait le faire en connaissance de cause. 1914, l'Europe en guerre, cet été-là, et l'armée impériale britannique est mobilisée pour donner leçon au jeune Kaiser Wilhelm. Les gens se disent que le conflit sera de courte durée et que tout sera fini d'ici Noël. Eh ben non, seulement ce n'était pas le cas, ni pour les 3 Noëls qui ont suivi. Faire une comparaison entre le référendum britannique sur la sortie de l'Union européenne et l'un des événements les plus sanglants de l'histoire récente, la guerre de 14-18, risquez, ne vous y trompez pas, le Brexit est en guerre. Cette fois, la Grande-Bretagne l'a déclaré. Des tweets, des posts Facebook et ce type qui crie « Stop le Brexit » devant le Parlement ont peut-être remplacé les balles, les engins explosifs et les hurlements de charge. Mais 3 ans après, la bataille a à peine bougé et une hostilité mutuelle a infusé la lutte de tous les côtés. Contrairement à la croyance populaire, celle-ci ne sera pas décidée pour Noël non plus, ni pour de nombreux Noëls à venir. À moins de vivre au Royaume-Uni depuis 2016, il est difficile de bien saisir l'ampleur de l'acrimonie qui existe actuellement dans le pays. Le résultat du référendum sur l'Union européenne s'infiltre partout. Le Brexit a retourné des membres de famille les uns contre les autres. Les médias en sont étouffés. Mais il y a l'espoir de l'élection la semaine prochaine. Seulement, cela n'a plus rien à voir avec l'appartenance ou non à l'Union européenne. Il s'agit de gagner, d'en finir, de sortir de l'impasse et d'humilier l'autre partie dans le cadre d'un misérable accord de paix. Alors, il est illusoire de penser qu'une victoire décisive du Parti conservateur de Boris Johnson ou du Parti travailliste aux élections générales pourrait remédier au désordre. Sombre tableau.
Et on est bien dans cette situation, l'auteur de ce papier le dit, de guerre civile froide. Et on voit bien dans toutes nos démocraties...
Ça, c'est pas les patients tristes, ça va voilà. Au-delà.
Alors,
en France, ça tombe là. On est en état de guerre civile froide.
Ah, on peut y arriver.
Moi, hein, je trouve qu'il y a
mais moi, je suis frappé de voir...
Quand Martinez dit « il y a du bruit dans la rue, j'espère que les fenêtres de l'Élysée sont ouvertes », c'est un peu cavalier, mais en même temps, c'est un signe de confiance dans le système pour qu'ils tiennent compte.
Oui, mais je regardais sur le blog de Jean-Luc Mélenchon, il dit que le temps de l'insurrection est venu.
Ah, mais il dit toujours ça.
Oui, oui, mais c'est, oui, mais depuis, je veux dire, c'est depuis... intéressant hein, que ça revienne dans le...
Mélenchon, il est en guerre civile avec lui-même.
Voilà, en guerre civile avec lui-même. Mais là, voilà, tous nos amis britanniques le disent. Ils n'avaient pas vu ça depuis extrêmement longtemps. Dans les familles britanniques, si l'on veut véritablement que les familles se divisent, on met le Brexit à l'ordre du jour. C'est comme l'affaire Dreyfus et ce fameux dessin de Carandache. Ils en ont parlé et les familles sont en train d'envoyer les assiettes au mur, de se taper les uns sur les autres.
Mais est-ce
donc
que vous
on voit bien qu'il y a beaucoup de colère.
Est-ce que vous ne pensez pas que le désordre et l'incapacité du Parlement britannique ces deux dernières années est perçu, y compris en France, et altère un peu plus la confiance que l'on fait dans la démocratie représentative. C'est la mère des démocraties, c'est le modèle des parlements qui a offert un spectacle quand même d'impuissance terrifiant.
Oui, le fonctionnement de l'institution parlementaire a rajouté plus qu'une louche à la perception, en effet, que la société britannique était profondément divisée, parce que dans ce régime parlementaire où l'institution parlementaire était aimée, peu à peu, l'institution parlementaire devient un objet de rejet et donne l'impression d'une machine qui fonctionne complètement en dehors de la société britannique.
Parce que ça renvoie à la question de fond de votre livre. Le titre « Le grand écart », je précise pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, puisqu'il est sorti il y a très peu de temps, vous n'êtes pas danseur à l'Opéra de Paris. Donc, ce n'est pas une figure de corps. Le grand écart, qu'est-ce que c'est ? Vous soulignez, je cite, c'est dans la conclusion, le grand défi des années qui viennent est l'articulation des 3 démocraties. La démocratie directe et immédiate de la manifestation, la démocratie participative et délibérative du grand débat et la démocratie représentative. Et donc, pour Pascal Perrineau, si on veut retrouver de la confiance et un minimum d'harmonie entre déjà les politiques et les citoyens, et au-delà entre les élites et le peuple, il faut articuler ces 3 démocraties.
Mais, tout à fait.
Mais c'est presque infaisable.
Si on considère que c'est infaisable, je vais dire attention. Parce qu'on le voit bien dans toutes nos enquêtes d'opinion et même dans le comportement de certains éléments dans la classe politique française, la démocratie libérale, le régime autoritaire peut être notre avenir. Un de nos collègues de Sciences Po, Guy Hermé, avait écrit un livre qui, hélas, a été trop peu lu il y a de nombreuses années, qui parlait de l'hiver de la démocratie. Hein, c'est-à-dire, on a vécu pendant des décennies sur l'idée que, voilà, la démocratie était notre passé, notre présent et notre avenir. Et Guy Hermé disait, attention, hein, c'est un livre, je crois, de la fin des années 90, attention, nous sommes peut-être entrés dans l'automne et peut-être même l'hiver de la démocratie.
Oui, sauf que dans votre livre, si je peux me permettre, vous laissez entendre à un moment donné, enfin, c'est pas toujours très clair, on va y revenir, mais vous laissez entendre que là, chez nous, le grand débat a servi un peu d'articulation.
Oui.
Vous allez nous expliquer ça dans deux minutes.
Tout à fait.
Europe 1. Médiapolis.
Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po, qui vient de sortir aux éditions Plon Le Grand Écart, est l'invité d'Olivier Duhamel et de Catherine Ney dans Médiapolis ce samedi.
Et donc, je disais que la thèse du livre, si je peux la résumer un peu brutalement, était que pour articuler les trois démocraties, la démocratie immédiate de la manifestation à un extrême, la démocratie représentative des élections à l'autre extrême, il faut entrer entre les deux, développer des formes de démocratie participative. Mais je crois que Catherine Ney veut insister sur la première, la démocratie immédiate, comme ça.
Oui, parce que vous citez à raison Jérôme Fourquet, qui a fait un très grand livre sur l'archipel français, qui montre à quel point la France s'est métamorphosée en profondeur. Et il dit que, dans le fond, aujourd'hui, la France est un archipel d'îles qui s'ignorent les unes les autres. Alors, est-ce que dans cet archipel, vous dites, dans le fond, c'est la mort d'une anarchie et que d'une France ingouvernable demain ?
Alors, le livre, en effet, et la conclusion de Jérôme Fourquet sur l'archipel, il met à jour un archipel social, c'est-à-dire de multiples îles qui dérivent et qui se posent le problème sans parvenir à le résoudre du lien. C'est fameux tout ce qu'on entend sur le lien social, le vivre ensemble, etc., mais qui est un vrai problème. Moi, je travaille plus sur l'archipel politique, ces trois démocraties qui partent trop loin l'une de l'autre et de la nécessaire réarticulation d'un lien politique. Parce que sinon, on va aller vers ce que Durkheim appelait très bien, un sociologue français, appelait très bien à la fin du 19e, les situations d'anomie, de déstructuration de la société.
Le père de la sociologie française.
Voilà, le père de la sociologie française, ces situations d'anomie. Mais l'anomie, quand elle perdure, elle peut très bien déboucher sur des situations d'anarchie. Et à ce moment-là, en effet, il y aura, venu du tréfonds des sociétés, une demande de rétablissement d'ordre par le haut. Si nous ne sommes pas capables de trouver un ordre social, un ordre politique dont nous avons tous besoin, par le bas, il viendra par le haut. D'où, en effet, ce que l'on disait tout à l'heure sur le régime autoritaire.
Mais ce n'est pas la seule, réponse au problème en cas d'échec, en cas de protestation, en cas de montée de la demande populiste. Vous avez aussi ce que moi j'appellerais l'autorité par la pitrerie, c'est-à-dire le système Trump. Trump, c'est pas un fasciste, c'est pas quelqu'un qui supprime les libertés, et c'est quelqu'un qui répond à la crise qui existe aussi bien aux États-Unis et à la défiance, à la crise politique, à la crise de la croyance dans la vertu et les capacités de la démocratie. Par la clownerie. Alors là, pour le coup, c'est
Boris Johnson aussi qui est dans la pitrerie.
Oui. Alors, et donc, c'est une dégradation considérable de la politique, évidemment.
Cherchons un pitre, alors, chez nous, non ?
Mais il y a des réponses populistes, non fascistes, si vous voulez.
Et en effet, et cela recoupe tout à fait des analyses extrêmement intéressantes que le monde de la recherche anglo-saxon a beaucoup développées sur le cynisme des citoyens contemporains. Peu à peu, le pessimisme tourne au cynisme. Les citoyens, en effet, ont une attitude extrêmement cynique par rapport à la politique. Et le cynisme, ça peut déboucher sur l'investiture d'un pitre. Et c'est pour ça que la pitrerie en matière politique peut être, et vous avez raison, Olivier, d'insister là-dessus, peut être un débouché de la crise. Mais enfin, si on est un peu plus optimiste, on a un instrument.
Et l'êtes-vous, mon cher Pascal Perrineau ?
C'est l'optimisme de la volonté, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Et on l'a voulu un peu entre janvier et mars. Souvenons-nous, début janvier, la France donne l'impression d'être dans une situation de quasi-anarchie. Et il y a cette idée et cette réalité du grand débat qui a mobilisé tout de même 2 millions de personnes, où l'on a substitué à la violence dans la rue, à des situations d'anarchie, eh bien la volonté de se mettre autour d'une table, de rentrer dans un gymnase ici ou là et de discuter de l'avenir de la France en faisant autre chose que de s'envoyer des pavés et des orions à la figure.
Eh bien nous, Médiapolis, c'est le petit débat, mais c'est le petit débat tous les samedis, vivant et passionnant grâce à vous, Pascal Perrineau. Allez, pour terminer, une chanson bien dans l'esprit de ce que vous nous disiez sur l'espèce de cercle vicieux, individualisme, pessimisme, cynisme. Et puisque, est-ce qu'on s'occupe simplement de moi ? Alors bien entendu, c'est Jacques Dutronc qui chante, c'est Étienne Daho qui a écrit le texte. C'était déjà en 1987, et c'est Jean-Luc Arblat qui nous l'a trouvé, écoutez. Mais qui se soucie de nous, chanson de 1987 d'Étienne Daho, chantée par Jacques Dutronc. et qui se soucie de vous? Eh bien nous, Jean-Luc Arblas, le réalisateur de cette émission, Capucine Patouillet qui l'a préparée, Justine qui fait les liens, Pascal Perrineau qui était notre invité, Catherine Neck, vous retrouvez avec moi toutes les semaines. Et qui se soucie de vous? Nous, faites écouter l'émission en podcast sur Europe1.fr. À samedi prochain et salut à l'ami Marionne.
Ben oui, qui est réuni avec tous les bons vivants d'Europe 1 autour d'une grande table. Bonjour Laurent.
Bonjour et merci Catherine et Olivier. Alors nous aussi, tiens, ce matin, on essaye de comprendre le monde qui change. Nous allons nous intéresser au lien qui unit les consommateurs et les agriculteurs. Et puis nous partagerons une choucroute avec le chanteur bon vivant San Severino. Il ne manque plus que vous. À tout de suite, Justine.
À tout de suite, Laurent.